Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, nous sommes le 11 décembre 2024. Je voulais vous parler du retour au bercail pour un très, très, très vieux bouquin. Un rare manuscrit breton s'apprête à rentrer au pays. L'incunable prenait la poussière depuis des années dans la collection d'un bibliophile norvégien. L'ouvrage a été acquis en juin dernier lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Londres. Prix de la transaction 300 000 euros, dont 90 000 issus de la poche de la métropole de Rennes. On pourra apercevoir les 88 feuillets en excellent état de conservation, apparemment, très bientôt à la bibliothèque des Champs Libres. Rédigé il y a 1000 ans, au XIe siècle, l'ouvrage est une pièce très rare. Un seul autre manuscrit breton du Moyen-Âge a été repéré depuis 1975. Réalisé pour l'abbaye de Locmaria à Quimper, une des 4 seules abbayes féminines médiévales de Bretagne, cette acquisition devrait permettre des recherches complémentaires sur les bibliothèques et la place de l'écrit et de l'érudition dans les monastères féminins dus au Moyen-Âge, sujet peu exploré jusqu'à présent, faute de sources. On dit yes. Tout de suite, le flash d'Aglaé.
Mohamed al-Bachir lance un appel aux Syriens et Syriennes de l'étranger, soit 6 millions de personnes, à revenir en Syrie. Revenez, nous devons reconstruire, renaître et nous avons besoin de l'aide de tous. Voilà ce qu'a déclaré le nouveau Premier ministre syrien dans un interview accordé au quotidien italien Il Corriere della Sera, publié aujourd'hui.
Quel accent ?
T'as vu ? J'ai fait ça, avec attention. Cette déclaration survient après que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et l'Autriche, entre autres, ont décidé de suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens. Interrogé sur les priorités du gouvernement, il a également assuré vouloir restaurer la sécurité et la stabilité dans toutes les villes syriennes et résoudre les problèmes des services essentiels comme l'électricité, l'eau et la nourriture. L'Arctique émet désormais plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en stocke. Syriane nous explique pourquoi.
En effet, Aglaé, on l'a appris hier dans un rapport publié par l'Agence d'observation atmosphérique et océanique américaine, NOAA. L'une des raisons principales de cette baisse de conservation de CO2 par l'Arctique est la dégradation de son milieu écologique, la toundra. Un milieu fait d'une végétation adaptée aux conditions de grand froid, comme celui du cercle polaire, et qui est recouvert par le permafrost. Un sol, aussi appelé le pergélisol. Véritable écosystème à part entière, composé de matières organiques, d'air, d'eau, de bactéries et de glace. Et occupant tout de même le quart des terres émergées de l'hémisphère nord. Et ce permafrost, perpétuellement gelé, est régulièrement qualifié de bombe à retardement. Mais pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien parce qu'en fait...
Pourquoi
Jamy ? Non, si aujourd'hui.
Mais pourquoi Jamy ?
Eh bien parce qu'en fait, il renferme en lui énormément de carbone et de méthane. Selon les scientifiques, la quantité de CO2 y est empiégée équivaudrait à 4 fois celle que les activités humaines ont émise depuis le début du 19e siècle. Et donc au-dessus de cette glace, il y a de la vie, de la végétation, gelant en hiver et se développant en été. Sauf que les plantes, ça brûle lors des incendies et le permafrost fond donc aussi avec, causant ainsi l'émission fulgurante de gaz à effet de serre. 2024 se place derrière 2023 en termes de record d'émissions de CO2 liés à des feux de forêt survenus au nord du cercle polaire arctique. Ce qui explique donc le résultat de ce rapport. Souvenez-vous des incendies au Canada l'année dernière, catastrophe ayant émis près de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone. En réaction au rapport publié par la NOAA, Brenda Eckwurzel, climatologue de l'ONG américaine Union of Concerned Scientists, a prévenu « Une fois atteint, nombre de ces seuils d'impact négatifs sur les écosystèmes sont irréversibles ».
Et tout ça alors que lundi, le service changement climatique de l'Observatoire européen Copernicus a annoncé que 2024 sera la première année où le réchauffement climatique dépassera les 1,5 degrés. Le seuil à ne pourtant pas dépasser, fixé par les États signataires des accords de Paris en 2015. Yoon Suk-yeol passe peut-être ses derniers jours en tant que président de la Corée du Sud. Aujourd'hui, la police sud-coréenne a indiqué avoir débuté la perquisition du bureau présidentiel. mais elle a assuré qu'elle n'a pas pu avoir accès au bâtiment principal du complexe, bloqué par des gardes de sécurité. Impossible donc d'accéder aux documents top secret pouvant expliquer la décision du dirigeant. Visée par une enquête pour rébellion, après la tentative manquée d'imposer la loi martiale, Yoon Suk-yeol a interdiction de quitter le territoire, tout comme d'autres politiques. Si les charges sont retenues contre lui, il risque la peine de mort. Dimanche dernier, le lendemain de la motion de censure ratée, l'opposition a annoncé en retenter une le 14 décembre. Et si vous avez un petit rhume comme Cyriane et Loïse actuellement,
c'est faux.
Prenez une tisane, reposez-vous, car vous ne pourrez bientôt plus... Enfin non, vous ne pouvez plus prendre certains médicaments.
À partir d'aujourd'hui, c'est ça?
Effectivement, à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre certains médicaments pour soigner votre rhume sans ordonnance. Sont concernés 8 traitements, dont l'Actifed Rhume, l'Umex Rhume et Nurofen Rhume. Beaucoup de trucs en finissant par rhume. Leur point commun, la pseudo-éphédrine. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, cette molécule permet de resserrer les vaisseaux sanguins et donc de soulager la maladie. Mais elle peut aussi avoir des effets indésirables sur le cerveau ou les artères et même provoquer des AVC ou des infarctus. L'ANSM a rappelé que le rhume se soigne tout seul en quelques jours sans traitement. Bah oui,
du miel, un peu de thym,
exactement.
Une bonne recette de grand-mère.
Il a fait le choix d'agresser sexuellement. Il avait toute sa conscience d'homme, d'adulte, pour agir autrement. Tels sont les mots de Camille Poche, la procureure, à propos de Christophe Roudia lors de son procès. Hier, 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ont été requis à l'encontre du réalisateur jugé pour agression sexuelle aggravée. La procureure a demandé à ce que la peine ferme soit effectuée via le port d'un bracelet électronique. Cela signifie que Christophe Roudia n'irait pas en prison. La justice a aussi requis son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, l'interdiction d'entrer en contact avec Adèle Haenel et une obligation de l'indemniser. Pour rappel des faits, entre 2001 et 2004, Christophe Roudia, qui avait entre 36 et 39 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement l'actrice de ses 12 à ses 14 ans. On connaîtra la décision du tribunal le 3 février prochain. AXA, ou l'assureur qui n'assure plus, visé par Alternatiba. Hier, devant l'agence d'AXA près de la Mabilais, des activistes du mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale se sont mobilisés. À Rennes, mais aussi ailleurs en France, ils et elles dénoncent l'implication de l'assureur dans des projets d'exploitation de gaz naturel liquéfié. Et les militants et militantes exigent que le groupe y mette un terme. Cette action survient après la sortie du rapport d'Insure Our Future, une campagne mondiale d'ONG et de mouvements sociaux qui demande des comptes au secteur de l'assurance pour son rôle dans la crise climatique. Cette année, elle pointe clairement le groupe du doigt. La ville de Rennes a lancé un nouveau dispositif des paniers bio pour toutes les femmes enceintes. Seule distinction, la durée. 3 mois pour les personnes avec des revenus plus élevés et jusqu'à 9 mois pour les personnes avec des revenus moins élevés. Cette expérimentation concerne d'abord tous les quartiers nord de la ville. Je me suis rendue à la deuxième distribution.
Pas plus de 3 tasses par jour, parce que quand on voit trop...
16h, des femmes enceintes se succèdent dans les locaux de l'USS Cargo. Elles viennent récupérer un petit panier. Marie Pacto, co-dirigeante de l'association, nous donne son avis.
J'en pense que du bien. Je trouve que politiquement, c'est quand même un signe assez fort de rendre accessible une alimentation saine et durable, et plus particulièrement aux femmes enceintes, et également de les sensibiliser plus largement aux perturbateurs endocriniens, à l'accès aux droits, etc. Donc je trouve que c'est une belle initiative. La première distribution, je crois qu'il y avait 2-3 femmes. Là, on passe à 7-8 femmes. Donc petit à petit, je pense que ça va se développer au fur et à mesure des mois, quoi. Elles étaient déjà très surprises de l'initiative et elles sont ravies aussi de pouvoir bénéficier de produits bio, locaux, de manière gratuite. La démarche, elle est super bien appréciée. Ouais. On a réfléchi aussi avec la ville à proposer soit des animations, des temps de sensibilisation pour accompagner cette distribution.
Yannick Nadessan, adjoint au maire de Rennes, délégué à la santé et élu à la métropole en charge de l'agriculture et de l'alimentation, nous explique.
Alors les paniers bio et locaux pour femmes enceintes, c'est une action de santé publique nouvelle, initiée par la ville de Rennes, pour permettre à des personnes qui n'en ont pas l'habitude de pouvoir avoir une alimentation saine avec ces produits sans pesticides de synthèse dans un moment de vulnérabilité pour sa santé et pour la santé de l'enfant à venir, avec des effets, on le sait, c'est scientifiquement démontré, sur le moment de fragilité, mais aussi pour le reste. Des mois et des années à venir dans une vie. Nous, l'avantage qu'on a à Rennes, c'est l'organisation de l'agriculture locale avec Terre de Source et de la solidarité alimentaire, et notamment avec les deux associations, la COU et ESS Cargo. Ça fait partie, notamment dans le cadre de la politique métropolitaine, du soutien à l'agriculture locale, du soutien à l'agriculture biologique, et donc en mangeant bien et en se faisant du bien à notre santé, on vient soutenir les agriculteurs qui vont dans le bon sens.
La distribution a lieu toutes les deux semaines.
Merci à vous-même pour ce reportage. Et pour plus de renseignements, enfin si vous voulez plus de renseignements et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez appeler le 02 23 62 20 68 ou bien envoyer un mail à l'adresse panierbio @ville-rennes.fr. Exactement. Et ouvrez grand vos mirettes, la première édition du festival Regard commence aujourd'hui. Regard est le nouveau festival de cinéma et de culture queer lancé par le centre LGBTI+ Iskis. Le but, promouvoir des œuvres cinématographiques aussi bien contemporaines que plus anciennes et aborder les thématiques des sexualités et des identités de genre. Regard se tiendra jusqu'au 15 décembre dans différents lieux rennais. Au programme des films évidemment, mais aussi des conférences, des rencontres, des expositions et même des soirées. Et ce soir à 19h au TNB a lieu la cérémonie d'ouverture. Venez découvrir le film All Shall Be Well, et cela en présence du réalisateur Ray Yeong, pardonnez-moi si j'écorche son nom, et retrouvez toutes les infos sur le site festival-regard.com.
Merci Aglaé pour ce flash, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu, Cyriane, ce soir ?
Bouclette blonde tombant sur sa laine grise. J'ai face à moi ce soir Marie Pelletier, chargée de projet vie associative et jeunesse à la Ligue de l'enseignement 35. Bonsoir.
Bonsoir.
Pull au col montant parce qu'il fait bien froid, hein, faut se protéger. J'ai donc face à moi Clément qui est chargé de projet jeunesse à la L2 aussi, à la Ligue de l'enseignement 35 aussi, et notamment des services civiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous venez à l'occasion des semaines brétiliennes de la laïcité. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter qu'est-ce que c'est les semaines brétiliennes de la laïcité ?
Les semaines brétiliennes de la cité, c'est un événement qui a été créé en 2020, en partenariat notamment avec la CAF et la DRETS, et surtout le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. C'est pour mettre en lumière cette loi et surtout son anniversaire, qui date du 9 décembre 1905. Donc on est en plein dedans, et on organise des conférences, des ateliers, des débats autour de cette notion pour la faire connaître et essayer de la transmettre au grand public.
Et donc vous venez au nom... vous allez dire un truc, non ? Donc vous venez au nom de la Ligue de l'enseignement 35. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la Ligue de l'enseignement 35 ? Parce que c'est une très vieille organisation.
Oui, tout à fait. Ça a été fondé en 1866 par Jean Massé. C'est un mouvement laïque d'éducation populaire qui promeut différentes activités éducatives, culturelles ou encore sportives. Et qui promeut notamment le fait de pouvoir avoir une école qui ne soit pas influencée par des croyances religieuses et qui soit ouverte à tous et à toutes, peu importe le milieu social d'où on vient, et également la laïcité. Et on est répartis en fédérations départementales. Donc la Ligue 35, elle existe depuis 1925 et on va avoir notre centenaire cette année.
Et donc de qui elle est composée ? C'est des bénévoles, c'est des salariés ?
La Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, c'est un réseau d'associations avant tout. C'est un mouvement d'éducation populaire composé d'associations qu'on appelle socioculturelles. Alors ça veut dire des associations dans différents domaines et dans différents champs d'activité. On a des associations dans l'environnement, dans l'éducation, dans la solidarité. Tout ça, on propose de se fédérer autour de mouvements d'idées partagées et de valeurs. Et nous, notre but à la Ligue, c'est de travailler sur sur différents champs d'action, notamment la jeunesse et l'éducation.
Et donc à Rennes, plus spécifiquement, donc vous avez dit que ça regroupe plusieurs associations. Quelles associations il y a à Rennes, par exemple ?
On en a plein, enfin plein, un certain nombre en tout cas. Certaines plus ou moins connues. On travaille beaucoup historiquement avec le Cercle Paul Bert, puisque c'est une amicale laïque. On est historiquement aussi une fédération d'amicales laïques. Donc on a le Cercle Paul Bert, on travaille avec Clair Obscur, par exemple. Sur l'environnement, on travaille avec la ferme de Quincé. Enfin voilà, on a plusieurs associations sur lesquelles on a des partenariats de différentes tailles, différents types, notamment sur le service civique, mais pas que, sur l'intervention aussi, sur des champs d'action, notamment auprès des écoles, sur différents thèmes abordés.
Et il y a un mot qui revient pas mal quand on vous écoute, c'est l'expression éducation populaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'éducation populaire ?
Éducation populaire, pour nous, ça regroupe pas mal de choses. Tout d'abord, c'est l'idée de l'émancipation et de l'autonomie des individus. Le fait qu'on puisse avoir un apprentissage qui soit accessible à tous, sans distinction de classe sociale, de statut ou d'origine. Et également de faire en sorte de développer des compétences intellectuelles, sociales et civiques pour participer pleinement à la vie démocratique et essayer de faire en sorte qu'il y ait des citoyens et des citoyennes éclairés qui se sentent capables de faire partie du débat public. Et aussi, ça se ressent aussi dans nos formations et dans ce qu'on essaie de mettre en œuvre. On est sur des modules qui, on essaie de faire des choses le moins descendant possible, d'être dans l'interaction, d'être dans l'échange. C'est pas forcément que nous qui apportons, on reçoit aussi. Et c'est un peu tout ça qu'on essaie de traduire par éducation populaire.
Oui, non, juste ajouter que oui, à notre niveau, humblement, on essaye de donner la parole aux gens, surtout, les faire se rencontrer en abordant des thèmes et en utilisant des méthodes, oui, d'éducation populaire. C'est-à-dire que on n'est pas forcément à l'école, mais justement, on va donner la parole, faire travailler l'intelligence collective en utilisant des outils, des méthodes qui vont permettre cela. Et c'est surtout un moyen d'expression et de liberté qui permet aussi l'échange entre toutes et tous, tout simplement.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces méthodes d'éducation ? Parce que globalement, tout le monde a pu aller à l'école en France, donc avoir accès à des méthodes d'éducation qu'on reproche souvent par ailleurs, à l'éducation nationale ou même à l'école en général. Du coup, c'est quoi vos méthodes un peu disruptives par rapport à ça ?
Nos méthodes, elles sont diverses et variées. Déjà, on n'est pas que des sachants, c'est-à-dire qu'on fait appel à des gens qui travaillent dans les domaines d'activité sur lesquels on propose. Par exemple, si on travaille sur l'environnement, on va faire appel à des assos qui travaillent au quotidien sur ces questions-là. Et puis après, nos méthodes au quotidien, c'est surtout avec, je sais pas, des débats mouvants, c'est-à-dire proposer une phrase et chacun puisse se positionner, apprendre à argumenter, entendre le débat, la contradiction. C'est des choses qui se vivent au quotidien, mais qu'on ne conscientise pas. Et puis aussi, aller rencontrer les acteurs et actrices qui travaillent sur ces questions-là, en donnant de son temps ou en participant à une action collective. Et aussi la rencontre, essayer de faire que la rencontre produise des choses, parce qu'on pense que le lien social aussi et la rencontre, c'est tout aussi important que ce qu'on va dire pendant 2 heures ou 3 heures.
Et ces rencontres, elles sont au centre, il me semble, de la programmation de ces semaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la programmation ? Qu'est-ce qui va se passer, du coup ? Et ou qu'est-ce qui s'est déjà passé, même ?
Effectivement, la programmation, elle est assez diversifiée dans les formats qu'elle peut proposer. On a eu le 4 décembre dernier, en partenariat avec l'amicale laïque Charles Foulon et la Maison Bleue, une conférence qui a été donnée par Edmond Hervé, justement pour parler de la laïcité, son contexte aussi à l'heure actuelle. On a 2 expositions aussi qui visent des publics différents à l'heure actuelle sur la laïcité, au Centre Info École et également à la Cour d'Appel de Rennes. D'ailleurs, le vernissage sera le 17 décembre prochain à 14h. On va également avoir, avec la Maison d'Arrêt de Saint-Malo, des ateliers BD autour de la laïcité qui vont être proposés aussi aux personnes détenues. Bien évidemment, la laïcité à l'école avec des sensibilisations auprès de 20 classes de collège qui vont être sensibilisées. Demain, avec des jeunes qui sont en mission de service civique, on a un partenariat avec l'atelier Déclic. Donc on va diffuser un court-métrage autour de la laïcité. Et après, les jeunes pourront réaliser un petit reportage sur ce thème-là, justement, en posant aussi leurs questions par rapport à ce qu'ils ont compris du court-métrage et pour en débattre aussi. On va également bientôt distribuer un livret d'aide au débat sur la laïcité, parce qu'on comprend que c'est un principe qui parfois peut mener à se poser des questions. Donc comment on en débat, comment on discute de tout ça aussi. Et puis on a aussi Lire et Faire Lire, qui est une association qui est en lien avec la Ligue de l'Enseignement et où les collègues interviennent dans les médiathèques sur une thématique de la laïcité pour échanger avec les plus jeunes et faire la lecture.
Oui, voilà, c'est très clair. Non, je rajouterais juste que du coup, nous, on a... alors moi, c'est plus sur la jeunesse, du coup, plus sur les services civiques, mais on a fait pas plus tard qu'aujourd'hui la visite, justement, de l'exposition à la cour d'appel, donc au Parlement. Donc c'est des affiches qui, alors, retranscrivent de manière non exhaustive un peu l'histoire de la laïcité avec des grands moments, pardon, et notamment sur l'histoire de France, comment on est arrivé à cette loi. Voilà, donc c'est ouvert au grand public et c'est vrai que dans nos formations civiques et citoyennes, notamment pour les jeunes en service civique, les volontaires, on aborde ce thème-là parce que, comme l'a dit Marie, c'est une notion qui est remise en question, qui fait débat. Qui a fait débat depuis sa création et qui fait encore débat aujourd'hui en 2024, mais qui est surtout parfois mal comprise ou qui a des fausses idées. Et donc nous, on essaye à notre niveau de la transmettre, comment on l'aperçoit et comment elle a été créée depuis 1905 et depuis la loi promulguée.
Et du coup, justement, qu'est-ce que ça veut dire la laïcité pour la Ligue de l'Enseignement ?
Vaste question. La laïcité pour la Ligue de l'Enseignement, en tout cas, nous, on essaye de s'approcher au maximum de ce qui a été dit de la loi du 9 décembre 1905, c'est-à-dire la séparation des Églises et de l'État, mais avant tout, une loi et une notion qui protège et qui garantit les libertés individuelles, et donc c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'exercer son culte. Parce que dans la laïcité, il y a une notion qui est hyper importante, c'est la liberté, qui est en lien avec l'idée de démocratie et l'idée qu'on se fait d'une société organisée dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc nous, on s'approche de ça, c'est comme ça qu'on la transmet, et dire qu'elle est garante des libertés, elle n'est pas là pour contraindre. Alors évidemment, il y a un cadre, parce qu'il faut un cadre, et c'est le cadre, c'est la loi, mais en tout cas, on est là pour dire qu'elle garantit la liberté de culte, et de croire, de ne pas croire, de changer, de faire un peu ce qu'on veut, parce qu'il y a une liberté de conscience en France.
Et oui, tout à fait. Et c'est aussi le rôle de l'État. Enfin, nous, on revient aussi beaucoup là-dessus. C'est l'article 2 de la loi de 1905 qui dit que l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Et la question aussi de cette neutralité de l'État qu'on met aussi beaucoup en avant. Et comme disait Clément, qui favorise la liberté de conscience et la notion de non-discrimination aussi.
Et du coup, est-ce que cette approche très neutre... Que l'État doit être neutre, ce qui est juste écrit dans la loi. Est-ce que c'est ce qui a fait que le département a fait appel à vous ? Enfin, pourquoi le département a fait appel
Pourquoi le département a fait appel à nous ? Parce que historiquement, la Ligue, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, a porté plusieurs noms, mais voilà, c'est un mouvement d'éducation populaire, un mouvement d'idées, a toujours travaillé sur ces questions-là et a toujours été partie prenante depuis justement 1905 et même avant, sur la question de la religion et de la laïcité. Donc on est un acteur, on va dire, identifié, où des gens, que ce soit des administrateurs ou des salariés, sont formés. Il existe, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il existe des formations. Si on souhaite se former, c'est la formation Laïcité et valeurs de la République, où on vient décrypter comment elle a été construite, son histoire, etc. et comment elle s'applique, Marie le disait, sur... parce qu'il y a des subtilités, j'ai envie de dire, sur les statuts, la neutralité, si on est fonctionnaire ou pas, qu'est-ce que c'est l'espace public, l'ordre public, etc. Donc c'est des formations qui sont ouvertes à toutes et tous et qui existent. Et donc nous, c'est pour ça qu'on est formé, comme une bonne partie de l'équipe à la Ligue, et on peut du coup intervenir sur, ce soit avec les fonctionnaires, le grand public ou la jeunesse, enfin les jeunesses.
Et donc, est-ce que vous avez d'autres semaines comme celle-là sur lesquelles vous êtes mobilisés ?
Alors, on n'a pas d'autres semaines à proprement dit, à part les semaines brétiennes de la cité qui ont lieu en ce moment. Par contre, tout au long de l'année, on travaille ces questions et on les aborde, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, pendant les formations civiques et citoyennes. Ça, c'est ce sur quoi je travaille principalement. Mais plus globalement, de toute façon, la Ligue est porteur et porte ce principe dans toutes les actions qu'elle mène auprès de l'école, auprès des associations et aussi le réseau affiliés à la Ligue se partagent la même approche que l'on a de la laïcité. Donc on travaille ces questions-là au quotidien, j'ai envie de dire. Et puis après, comme l'a dit Marie, le centenaire, c'est l'année prochaine de la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, pour le coup. Évidemment que ce sera aussi des questions qui sont mises en débat. Mais ce qui est intéressant avec ce principe-là, c'est qu'il est au gré aussi de l'évolution de notre société et que bah, peut-être qu'on n'avait pas la même notion de laïcité il y a 20, 30 ou 40 ans, que sais-je, et qu'elle sera peut-être différente d'il y a 10, 15 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent déjà essayer de la comprendre et surtout en débattre, parce qu'une loi, elle est aussi faite pour être débattue et remise en perspective.
Et le but aussi, c'est de faire un suivi, c'est-à-dire que Formation Valeurs de la République et laïcité, c'est possible après de devenir formateur soi-même sur ça. Donc comme le disait Clément, la prochaine, elle sera en février, elle est libre d'accès, elle est gratuite, il ne faut pas hésiter à aller regarder directement sur notre site. Et par exemple, sur l'événement qu'on va faire demain avec les jeunes sur le court-métrage, après on rediffusera aussi le court-métrage à plus grande ampleur pour voir ce qu'ils en ont pensé plusieurs semaines, plusieurs mois après et revenir un petit peu dessus. On essaie de sensibiliser, mais aussi de faire un suivi au maximum derrière.
Et vous agissez auprès de vraiment plein de gens, j'ai l'impression, c'est ça ? C'est vraiment tous les publics, quoi.
Oui, alors oui. Après, on a des actions précises, notamment auprès des écoles, enfin du milieu de l'éducation nationale, de manière générale. Et puis après, le fait qu'on travaille avec beaucoup d'associations, en effet, on brasse pas mal de gens. Et on a des formations aussi... ce qu'on appelle les formations bénévoles qui sont ouvertes aux bénévoles de nos associations, mais pas que. On ouvre aussi aux bénévoles d'associations qui ne sont pas chez nous, on n'est pas sectaires. Donc ça, elles sont ouvertes et on aborde la question de la laïcité, mais pas que. On aborde des formations qui sont liées aux besoins des assos aujourd'hui, que ce soit sur la comptabilité, la gestion démocratique, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on fait aussi à la Ligue.
Eh bien, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut vous contacter si jamais d'autres personnes sont intéressées, voudraient rentrer en contact avec vous ?
C'est disponible directement déjà sur le site internet. Selon ce qu'on fait, vous avez juste à taper. Vous avez nos contacts qui s'affichent avec nos mails et nos numéros de téléphone aussi, directement.
Bah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Du coup, les semaines brétiliennes de la laïcité, c'est jusqu'à quand ? Ça dure encore quelques semaines.
Oui, un petit peu, ça va durer jusqu'à la fin du mois de décembre à
D'accord.
peu près.
Et on le rappelle, du coup, le vernissage le 17 décembre, c'est ça.
Tout à fait.
À la cour d'appel de Rennes.
À 14h, c'est
super.
Ça.
Super. Merci à vous.
Merci.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Ça marche. Un rendez-vous régulier pour 6h avant minuit. C'est la chronique sport de Marilyn. Bonsoir, Marilyn. Je crois que le micro ne marchait pas, on n'a pas entendu ton bonsoir. Mais...
Bonsoir.
Ah, voilà, elle est là. On t'écoute, de quoi tu vas nous parler cette semaine ?
Aujourd'hui, nous allons parler de l'interview de Kylian Mbappé. En effet, le génie français a refait surface et on nous a promis une interview assez croustillante.
Souvent, quand il y a une discussion entre deux personnes, ça reste entre les deux personnes. Sur toi, il y a beaucoup de trucs qui s'écrivent.
Non, mais le problème, c'est que tu sais... Quand tu es une star, si tu parles pas, on parle pour toi. Parce qu'il faut qu'on parle de toi. Tous les jours, il y a quelque chose alors que j'ai parlé à personne. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que je parle aujourd'hui avec toi. C'est qu'à un moment, il faut parler, il faut que les gens t'entendent.
Clickix exceptionnel. Kylian Mbappé, un humain avant tout. Seulement sur Canal+.
Ça claque.
T'as vu ça ? Kylian Mbappé, un humain avant tout. C'est ainsi que l'émission Click TV nous annonce le 6 décembre via ses comptes Twitter que le génie français fait un retour médiatique. Après une longue période de silence, en effet, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'avait pas parlé. Et comme il le dit, beaucoup de personnes ont parlé à sa place. C'était donc l'occasion pour l'attaquant du Real Madrid de se dévoiler. Mais au final, que retenir vraiment de cet entretien ? Si l'image d'un leader ambitieux et engagé était bien là, on ne peut pas s'empêcher de se demander si ces déclarations étaient-elles réellement authentiques. Cette interview, c'était du papy pur jus, un merju très filtré. Donc, dans cette chronique, on va revenir sur trois aspects. Un exercice de communication maîtrisé, les non-dits et les zones d'ombre, et enfin, un Mbappé un peu plus ouvert sur les sujets de société. Donc tout d'abord, Kylian Mbappé a choisi Click et l'émission de Mouloud Achour sur Canal+. Sur Canal+, il y a aussi des émissions de sport, mais il a fait le choix d'un terrain favorable. Un terrain favorable où il ne sera pas bousculé sur les différentes choses qui s'est passées sur cette première saison. En effet, pendant cette interview de 52 minutes, il a pu contrôler son message sans être bousculé par des questions gênantes. Mouloud Achour, en réalité, quand vous écoutez, eh bien, il pose des questions, il ne relance pas, et puis même des fois, il lui souffle un peu les réponses. Mmh. Et on se demande, mais est-ce que c'était une interview ou une tribune ? Maintenant, pour Kylian Mbappé, le rôle était là. Il était là pour envoyer des messages, avoir un contrôle de son image, et c'était un peu réussi. On peut se dire aussi qu'il n'a pas abordé les sujets brûlants. En effet, ceux qui attendaient pas mal de réponses sur les différentes polémiques n'en ont pas eu vraiment pour leur grade. Donc, concernant les non-dits et les zones d'ombre. En effet, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est au cœur de beaucoup de débats. Donc, les raisons difficiles de son jeu actuel au Real Madrid, il n'en a pas réellement parlé. Il a parlé exactement plus de l'équipe en elle-même. Oui, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on nous attend en deuxième partie de saison. Oui, mais Kylian, nous, on voulait savoir comment toi tu vas, comment toi tu t'intègres dans cette équipe. Non, on n'aura pas de réponse. Le deuxième point était vraiment sa relation avec l'équipe de France. En effet, ces deux dernières trêves, il n'a pas été présent. Et justement, on en voulait en savoir plus. Vous pensez que Kylian avait à dire ? Mais non, il a plutôt dit que vraiment, l'équipe de France, c'était pas rentable pour lui. Ah oui, parce qu'il ne prend pas ses primes, il les renverse dans sa situation. Et en plus, vous vous souvenez, peut-être pas, mais il avait eu un débat sur les droits d'image. Et là, il le rappelle très bien. Ouais, je suis allé au feu pour les gars, etc., etc. Oui, Kylian, super, mais c'était pas vraiment la question qu'on voulait avoir. Mais bon, du coup, et même pour ça, il va aussi dire qu'il a passé certaines couleuvres, mais Mouloud Achour non plus ne va pas lui demander quelle couleuvre il a avalé. Donc pareil, on reste entre fins. Et en dernier, bah, du coup, son affaire en Suède. Donc on voulait lui demander si, quelle était réellement sa position, etc. Bon, pareil, on a eu une question très tiède de Mouloud Achour, et puis Kylian nous a répondu « Le gouvernement ne m'a pas contacté ». Oui, Kylian, c'est le procureur qui a parlé, pas le gouvernement. Et du coup, pareil, on n'aura pas plus de réponses. Parmi ces blablas de ces 52 minutes, qui étaient assez longues, il a présenté ses excuses aux supporters du PSG. En tant que supporter du PSG, ce n'était pas des excuses, bien évidemment. Mais il a essayé de nous dire qu'il aurait pu être plus proche de nous. Ce n'était pas ce qu'on reprochait à Kylian Mbappé sur cette dernière saison. Ensuite, il a été plus ouvert sur ses idées de société. En effet, il y a aussi des débats autour du projet Mbappé. Un projet qui pousse les parents à forcer leur enfant à devenir un Kylian Mbappé. Mais dès le très jeune âge, c'est-à-dire qu'à 8 ans, à 10 ans, vous avez des parents qui mettent des vidéos où on voit les enfants, en train de s'entraîner ardument. Kylian Mbappé dit non. Moi, on ne m'a jamais forcé, c'est moi qui décidais, et encore, mes parents me laissaient faire. Donc il a rappelé aux parents de laisser les enfants profiter de leur jeune âge, et ensuite de voir si ça devient plus sérieux pour devenir professionnel. Il a aussi parlé de la cadence infernale imposée aux joueurs, mais là aussi, c'était assez bizarre. Il a clairement dit que bon, ça ne le dérangeait pas de jouer, mais qu'il fallait avoir un temps de vacances assez équivalent, comme ce pouvait se faire en NBA ou dans d'autres sports. Et ensuite, il a parlé de sa vision du sport et de la société en général en disant qu'il n'était pas aveugle sur ce qui se passait, que certaines de ses prises de parole étaient peut-être mal prises, mais que ça ne le dérangerait pas de continuer à parler. Est-ce que c'était un exercice réussi ? Ça, chacun se fera sa petite idée.
Merci Marlène pour ce décryptage de qualité. On te retrouve bientôt dans 6h avant minuit pour une nouvelle chronique sport. C'est l'heure d'écouter notre répondeur, je crois qu'il clignote.
Téléphone. Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Bonjour, 6h avant minuit. J'avais envie de partager avec vous un petit peu du dictionnaire du français non conventionnel de Jacques Sellard et Alain Rey, parce qu'on ne dit pas assez les dictionnaires. Et donc, le sort du destin a décidé de vous faire partager baluchonner, verbe transitif. Faire un baluchon des objets de peu d'encombrement et de valeur appréciable, recueillis au cours d'un cambriolage. Par extension, voler des objets de peu de valeur. Mais tout ça, c'est pas sérieux. Je rêve de négoce à cette heure. C'est plein d'astuces. Tu baluchonnes des vieilles plaques d'assurance pour revendre comme du rhum, du canac. Paul Vélène, homme poétique complète, page 300. Historiquement attesté en 1891, issu de baluchons, encore usuels. Voilà, j'espère que le sort du destin a bien choisi. Bonne soirée.
Merci pour ces tergiversations littéraires. Si vous aussi, vous voulez nous laisser un message vocal, je vous donne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Il sera diffusé comme celui-là à la fin de l'émission. Avant qu'on se quitte, je voulais juste vous dire un dernier petit mot. 6 heures avant minuit organise une collecte en partenariat avec La Cloche à l'occasion de son émission spéciale de Noël. Pour participer, vous pouvez apporter les produits suivants indispensables aux maraudes de l'asso: café, thé, tisane, sucre en morceaux ou en dosettes, soupe en sachet individuel déshydraté ou en briques à réchauffer et gobelet en carton. Il vous reste jusqu'au 19 décembre à 19h, c'est facile à s'en souvenir. Pour faire parvenir vos dons dans les locaux de Syllab, on est au deuxième étage du bâtiment EREV ou Maison des étudiants sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2. Merci par avance pour votre générosité et merci à toi Timothée pour la technique. À demain.
Radio Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La Radio Sauvage.